Par sa terre, il est 17h08 et à 18h le journal avec Florence Paracuelos et tout de suite par Jupiter, Charline Vananecker, bonsoir.
Bonsoir Dominique Delaroa et merci pour ces bonnes informations.
C'était belles informations.
C'était vraiment bien joli. De bien bonnes factures.
Ouais, d'habitude on est un petit peu sceptique, mais là aujourd'hui c'était bien.
Merci.
Allez,
à bientôt.
À bientôt Dominique. Nous avons réécouté l'émission de vendredi.
Aïe.
Comme ça lundi, on repasse sur des bonnes bases.
Bonjour, bonjour Charline.
Ah, bonjour, bon venez ici.
Aïe,
Guillaume.
Ah, c'est pour moi, merde. Oui,
une grosse erreur hier.
Ah, qu'est-ce que j'ai fait?
Et quand l'invité a parlé de grève.
Ouais. De toute façon, il y a une raison valable. Les gens s'énervent pas pour rien. Voilà, c'est pas de la provoque. Hein.
Et ça fait plaisir à personne de faire grève.
Et
a priori,
ça fait plaisir à personne. Voilà, moi, c'est ça. Je cherchais un truc intelligent à dire.
Mais non, mais c'était bien.
Oui, alors, ouais. Quel est le gros défaut de Guillaume, Alex?
Il est de gauche.
Non, je veux dire, dans cette séquence.
Dans cette séquence, il est de gauche.
Oui, non, mais surtout, il donne la réponse à l'invité.
Mais c'était pour l'aider que j'ai fait ça.
Mais les gens veulent l'avis de l'invité, pas le tien.
Ah, c'est vrai,
si
ouais,
tu veux donner
merde.
Une réponse, oui, il faut oui. la glisser discrètement dans une question.
Même Charline, elle fait.
Oui, bon, ça va, passons à toi. Oui. Alors, deux grosses erreurs hier.
Voilà, que deux.
Oui,
que deux.
Oui, oui. Bah, déjà, à la sortie d'un son pour un sujet.
Et si je peux pas la couper moi-même.
Qui a trouvé ce son?
Fernand Sardou, c'est vous,
c'est moi, évidemment. Culture musicale de ouf.
Ouais, 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 ouais. Quelle est la grosse erreur d'Alex, Guillaume?
Bah, d'écouter que des chanteurs morts.
Non, pas ça. Non.
Bah, je vois pas.
Non, mais enfin, Alex, si tu dis tout fier, c'est moi qui ai trouvé le son.
Bah, oui, mais c'est vrai, c'est moi qui ai trouvé le son.
Je me doute, je sais pas. Enfin, mais ça veut dire quoi que c'est exceptionnel et que t'en trouves presque jamais?
Mais
voilà,
c'est vrai,
voilà.
C'est vrai aussi ça. Ouais, enfin, bah oui. non, 2018, c'est mon premier. Mais...
Bon, alors, tu dis rien, puis les gens se diront que tu trouves de temps en temps, puis ça passe, tu vois.
C'est, ça, c'est malin.
Alors,
ça.
Deuxième erreur, à la sortie de la chronique de Guillaume sur les religions.
Et donc, que chacun range sa religion bien profond dans son culte.
Oh, ce lundi de Pâques. Oubliez Dorby.
Qui ne regarderait pas la vidéo, que je n'ai pas ri pendant cette chronique. Moi, j'ai trouvé ça assez consternant, même de manière générale.
D'ailleurs, vous êtes parti au
oui, oui, j'ai même pas écouté.
Ouais, ah, et bravo. La solidarité.
Ah non, mais moi j'assume pas les conneries de Guillaume. S'il veut se disputer avec les fans de Corrida, les Corses ou les islamistes, c'est son problème. Mais moi je voudrais voir 2019.
Non, mais attends, mais moi je soutiens tes brèves. En plus, je rigole à chaque fois.
C'est vrai, puis c'est pas facile tous les jours. Hein.
Ah, non, mais on risque pas de se faire dégommer par un breton ivre, virgule.
Ah si, en traversant la rue déjà.
Ouais. Ça te fera une brève de plus du coup.
Oh.
Bonjour la France Inter. Mais oui, on est mardi.
Oui, on est mardi. Oui, en mardi.
Et hier, on était en direct en plus. Et je ne sais pas pourquoi je vous ai dit vendredi,
vous
lundi.
Êtes déréglé.
Bref, vous écoutez la start-up émission de l'actualité bankable, des blagues qui génèrent du cash flow. Let's begin the show. La QV 2004 de l'ENA est si exceptionnelle que la France est non seulement dirigée par Macron, mais aussi par tous ses petits camarades de classe, la fameuse promo Léopold Sédar Senghor. Comment expliquer une telle réussite cette année-là? Là, Léna.
Mais n'oubliez pas qu'ici, on étudie plus pour réussir plus.
Parmi les trois épreuves écrites du bac, il y a la dissertation, le commentaire et l'écriture d'invention qui est amenée à disparaître parce qu'il y a trop d'inventions. Surtout trop d'anachronismes et une pauvreté des textes, paraît-il. Alors le ministre Blanquer a un message à passer aux bacheliers.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Tout peut s'acheter et pour en avoir l'illusion aujourd'hui, tout peut se louer. Même les œuvres d'art, les Beaux-Arts de Nantes offrent cette possibilité grâce à son Artothèque.
On cherche un truc qui soit un peu dans les tons verts, quoi. N'importe quelle croûte, mais une qui aille avec l'ambiance que j'ai faite chez moi dans les tons verts.
Partant de ce principe, il est désormais possible de le louer.
Ah oui.
Puisqu'il est une œuvre d'art. Allez, je vous fais une ristourne, je vous le file. Pour 100 balles, t'as Alex Vizorek.
Bonjour Charlie de Malinaker, c'est pas très gentil, hein. Et Chaou, je ferai gaffe parce qu'avec les conneries que vous faites, demain le débrief, il va être serré. Aujourd'hui, autour de la table, eh bien, c'est une belle équipe que vous allez retrouver à 17h20. Celle qui concentre autant de neurones à elle seule que tout le reste de l'équipe réunie. Notre Bernard Arnault de l'intelligence. C'est vous, Isabelle Sorand. Bonjour.
Je sais pas comment je dois apprendre ça. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis.
De quoi on va parler?
Je vais vous faire un éloge de l'échec et de la paresse.
Ah, bah ça va m'intéresser ça. À 17h30, celui qui est l'inverse d'un train SNCF, puisque lui, dès qu'il peut, il démarre. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais hérisser le poil de tous les auditeurs et auditrices avec quelques notes de musique. Ça fait flipper sa race.
Et enfin, à 17h40, celui qui, même quand il va en Jamaïque, les autochtones lui demandent où il se fournit. C'est Hippolyte Girardot, bonjour.
Bien trouvé, bonjour à tous. C'est bien, moi je me suis... notre invité m'a beaucoup inspiré...
Il nous refait la pub Woolly d'Isabelle Adjani, il fait le fameux Messmaker dans le film Gaston Lavaque, tout ça c'est du revival et ça m'a inspiré.
Voilà, il y a un Jamaïcain qui est décédé.
Moi je me tourne donc vers celui qu'on a installé au centre de l'Open Space. Vous vous faites connaître à travers la télévision avant de créer un duo comique avec Paolo Good. Vous montez ensuite seul en scène et vous assurez aussi la première partie de Danny Boone à l'Olympia, qui vous fera tourner dans ses films Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer ou Superchondriaque. Vous avez également tourné dans Les Tuches d'Olivier Barou ou Vive la France de Michael Youn. Et en 2016, vous passez derrière la caméra et réalisez Ma famille t'adore déjà. Vous êtes également chroniqueur dans la matinale d'Europe 1. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je donne mon nom.
Oui.
Jérôme Commandeur.
Ah, mais voilà.
Oui, voilà.
Bon, Charline Van Lacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Jérôme Commandeur dans cette émission.
Merci de m'accueillir. Là, on est entre gens de goût. Voilà. Entre les auditeurs de France Inter, vous, cette table, moi, on est entre, voilà, sociodémocrates, une branche ouverte.
Bon teint.
Voilà. Qui est pas contre la finance, mais qui en même temps s'en accommode un peu.
Ça vous change un peu, Jérôme Commandeur.
Mais oui, moi, je suis. Je viens de l'autre, enfin, l'autre côté, c'est une petite partie de mes activités.
Jules de chez Smith en face, vous êtes, c'est là-bas que vous êtes un petit peu pour nous.
Exactement. Bravo à la référence à Gaston.
Exactement. En réalité, vous êtes monsieur de Messmaker, celui qui arrive toujours pour signer les contrats, puis qui arrive jamais dans Gaston Lagaffe. Et celui-là, c'est le Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval, qui est en salle au cinéma demain, d'après l'œuvre de Franquin, bien sûr. Alex Vizorek, vous avez vu Gaston Lagaffe.
Mais oui, et quand on dit d'après l'œuvre de Franquin, c'est vraiment ça, parce qu'à un moment, les Belges, ils sont sur les dents. On reprend Gaston Lagaffe, qu'est-ce qu'ils nous font? Non mais c'est-à-dire qu'ils ont pris les personnages, ils ont fait un film, et puis voilà, oui, c'est les mêmes personnages, et puis oui, c'est aussi un nouveau film, et c'était ma première question, qu'est-ce qu'on retrouve du Gaston de la BD que les Belges ont adoré, et qu'est-ce qui est 2.0 cette fois-ci, et qui vient de l'imagination de Pef?
Il y a pas mal de choses, disons que lui, il a voulu Franquin, il avait un ressort comme ça, très, très écolo, très avant-gardiste, très...
Ça se trouve toujours un petit peu
dedans. Ça se trouve toujours. D'ailleurs, c'est marrant, il avait un rapport avec l'eau. Il y avait toujours de l'eau, des inondations, des fuites. Il y a toujours de l'eau, effectivement, dans le film actuel. Il était propriétaire, enfin, de Messmaker venait tenter d'acheter le journal. C'est devenu un site internet.
Donc, oui, c'est 2.0, là. On est dans une start-up.
Il y a quelques petits, peut-être des évolutions. Mais globalement, ce qu'on a voulu garder, c'est le côté, ce que Pef a voulu garder surtout, parce que nous, on n'est que comédiens. Pef, c'est le metteur en scène. Cet esprit très ludique, très très humaniste, très très anti-boulot, comment faire pour passer sous le tapis pendant que le patron regarde. C'est tout ça qu'a voulu garder Pef, et c'est, je crois que les fans sont très contents. Mais...
Il est de bon sens, ce Gaston, toujours. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas avant midi, parce que comme ça lui impose de ne pas faire de sieste, et il peut faire sa journée d'un coup. Et ça, c'est pas mal.
Oui, c'est malin.
Et puis, quand il envoie un mail, il vient prévenir qu'il a envoyé un mail. Et ça, je trouvais ça très très drôle, parce que ça, le Gaston d'avant aurait pas pu faire, puisqu'il n'y avait pas de mail.
Non, je sais pas si ça peut se faire avec le courrier. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on peut envoyer une lettre, effectivement, et prévenir la personne physiquement, que la personne va recevoir une lettre? Je ne sais pas. Là, ça va trop loin pour mon petit cerveau.
Jérôme Commandeur, il est comment votre monsieur de Messmaker, celui que vous incarnez?
Alors lui, il est resté quand même assez dans l'époque, on va dire des années 70, parce qu'il a une énorme limousine, il a des talonnettes, c'est un film aussi pour enfants. Alors il y a beaucoup de figures comme ça un peu classiques qu'on connaît par cœur. Il a un énorme cigare, il a Kigloos qui est son assistante qui le suit partout, qui elle n'avait pas de texte. La salue parce qu'elle s'appelle Sylvie Laguna, c'est une très très bonne comédienne, et donc elle me suit partout et elle me sert une espèce de petite tasse, petite soucoupe pour que je mette ma cendre dedans. Donc voilà comment il est. Et il a des problèmes capillaires, mais je peux pas tout dévoiler.
Mais il vient régulièrement pour essayer régulièrement de racheter l'entreprise.
Voilà, il veut racheter le site qui s'appelle Le Petit Coin.
C'est donc dans Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval qui est en salle demain. Et il y a notre invité dedans. Il y a Jérôme Commandeur, un monsieur de Messmaker. Et il est avec nous jusqu'à 18h. Alors, j'espère qu'on aura signé à 18h quand même.
On est mardi aujourd'hui.
Oui, on est mardi. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violin, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.
the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Ranson, vous êtes sur France Inter par Jupiter. Notre invité, c'est Jérôme Commandeur dans cette émission présentée par Alex Vizorek et Charline de Mesmaquer. Gaston Lagaffe, donc les Français, vous dites comment vous...
Bah, mais je suis comme un con là, ce que vous dites.
Ouais, là, vous prononcez comment votre personnage?
Bah, moi, je disais de Mesmaquer,
comme tous les Français.
Et alors, en Belgique, c'est de Mesmaquer.
Bah, voilà.
Et voilà.
Quelle connerie.
Pourquoi je suis tout retourner. Faut prévenir Pierre-François Martin Laval de tout refaire. Ça sort en salle demain, il reste la nuit.
Un petit doublage,
je suis dur là.
Et pour entourer Monsieur de Mesmaquer.
Monsieur de Mesmaquer, nous avons...
c'est de pire en pire comme vous l'avez fait. Dans 20 minutes, pour entourer Monsieur de Mesmaquer.
Mais Madame Sorrent, on a aussi le petit Meurice et puis Gérard Doré.
Formidable. Et maintenant, une page d'information radiophonique.
Fou commence à jeter des cailloux sur les premiers cordées. C'est toute la cordée qui dégringole.
Le journal de presque 17h17.
Ça, le gars est un génie ou alors il est complètement con, je sais pas quoi dire.
Et on commence par les titres.
La grève à la SNCF a démarré. Le mouvement est très suivi par les cheminots. Conséquence, des bouchons monstres en Ile-de-France.
Oui, décidément, entre Anne Hidalgo et Philippe Martinez, les chauffeurs de taxi racistes vont moins détester les Arabes que les Espagnols.
Racisme toujours.
Oui.
Il y a 50 ans, décédé Martin Luther King. Et sinon, il y aura des brèves, Alex?
Oui, car comme le disait très bien Martin Luther King, I brave a dream.
Allez, taisez-vous. On commence par Emmanuel Macron.
Oui, notre bon président a passé le week-end au Touquet. Et lors d'un bain de foule, ceci.
Ne lâchez pas avec la SNCF.
Vous inquiétez pas,
a-t-il dit. Je ne lâcherai rien avec la SNCF. On tiendra bon. Et en même temps, c'est plus facile de tenir bon quand on est confortablement installé dans sa voiture avec chauffeur que coincé sur un quai de gare.
Au micro de BFM TV, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a déclaré : je fais des avancées, les syndicats, eux, n'ont pas changé leur position.
Alors que c'est complètement faux, ce matin ils étaient Gare de l'Est et ils ont été jusqu'à Saint-Lazare.
Et le hashtag Je soutiens les cheminots est apparu sur Twitter et les soutiens viennent des quatre coins de France.
Eh ben, je vous en lis un, voilà un tweet perso, hashtag Je soutiens les cheminots, parce que même si je prends souvent la voiture, je prends également souvent le rail, signé Benoît Magimel.
Notons encore que les Échos ont refusé de publier une interview d'Elisabeth Borne à propos de la grève parce que Matignon l'avait trop réécrite.
Oui, s'il passait moins de temps à réécrire les interviews au gouvernement, ils auraient peut-être pu réécrire la loi travail.
Bah, ils l'ont bien fait aussi. Oui. Ça. Passons à l'international. Pour le prince héritier saoudien, Israël a droit à un territoire.
Mais bien sûr qu'Israël a droit à un territoire, mais pas celui des autres, évidemment.
Espagne. Un éléphant tué dans l'accident d'un camion de cirque.
Ah, un éléphant tué dans l'accident d'un cirque, ça résonne comme une métaphore du Parti Socialiste.
Culture à présent, faire voyager la Joconde coûterait 30 millions d'euros.
C'est cher, hein, et surtout que vu son âge, c'est déjà les prix carte vermeille. Hein, donc,
non mais Alex, là, c'est 30 millions d'euros.
30 millions d'euros. Enfin, c'est encore plus cher que les déplacements d'Edouard Philippe au Japon, donc c'est vraiment cher.
Musique. Oui. Maître Gims a révélé qu'un duo entre lui et Johnny était prévu.
C'est triste. Ah. C'est triste de se dire que Johnny a préféré mourir que de chanter avec Maître Gims.
Fait divers toujours. Oui. De retour de la foire au jambon, il roule à près de 200 km/h sur l'A64.
Je crois qu'il était pressé d'arriver à bon port. Oui, par solidarité. Ah oui, non, je décide Alex. De faire la grève de l'humour aussi. Mais un petit
c'est
peu.
Beau.
Solidarité avec
c'est beau.
Les cheminots.
Ça fait quelques mois.
pour quitter à 200 km/h à la foire du jambon, c'est sans doute un juif ou un musulman. Cette
oui. C'était déjà une brève, ça, si
non. Ah non, non, c'était une information.
Ah ouais, d'accord, bah, les brèves. Alors.
Les brèves, deux brèves spéciales jeunesse aujourd'hui. Allez, vous pouvez nous lire la première.
À 3 ans, avec son chien et son biberon, il va au supermarché du Touquet.
Ouais, décidément, au Touquet, les jeunes sont d'une précocité. C'est allez, impressionnant.
La deuxième.
Et oui, Essonne, un garçon de 9 ans, arrêté en plein cambriolage. La garde à vue n'étant pas possible à cet âge, il a été confié à un foyer. Les jeunes de Les Républicains demandent le respect de la présomption d'innocence pour leur futur président.
Merci Alex.
Mais de rien,
Jérôme Commandeur est avec nous, qui est aussi au théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 29 avril
c'est
pour son
rigolo.
Spectacle.
Je suis allé le voir.
Spectacle qui s'appelle Tout en douceur. Mmh. Jérôme Commandeur.
Vous partez en tournée dans toute la France, rassurez-moi.
À partir de janvier, l'année prochaine.
Ah voilà, donc de janvier à mai. 2019 à mai 2019, amis France Interien, France Interienne. Allez voir, donc Jérôme Commandeur. Alors, pour savoir qui tient les leviers des différents pouvoirs, il suffit de regarder la photo de classe de l'ENA en 2004. Promotion Léopold Sédar Senghor avec Macron et ses camarades. Ses camarades numéro 2 de la SNCF aujourd'hui, numéro 2 de la BPCE, groupement bancaire, député Boris Vallot, l'ex-conseiller de Hollande, Gaspard Ganzer, la favorite à la présidence de Radio France aussi, Sybille Veil, qu'on embrasse bien sûr, parce qu'elle est favorite, alors on l'embrasse.
Dans le doute.
Et tant d'autres qui figurent dans un livre qui s'appelle Les jeunes gens de Mathieu Larnaudy. Alors, comme dirait Macron, s'il était Jean-Claude Brialy, tous mes amis sont là, merveilleux.
C'était dit rendez-vous. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches, la place des grands hommes. T'as pas changé.
Qu'est-ce que tu deviens? T'as 3 ministères et un gamin. Patrick Bruel.
Qui l'a trouvé ce son?
C'est Alex Vizorek.
Oh, 2 sur 2. Oh,
Alex, j'arrête.
Belle
saison.
Je vous
jure, j'arrête.
Belle saison pour
vraiment tous les chanteurs morts. Hein. C'est vraiment une spécialité.
Salaud.
Alors, il y a notamment un long article qui est paru dans Paris Match à propos de cette promotion de l'ENA assez exceptionnelle. Et donc, on avait connu la promo Voltaire, si je me souviens bien, avec François Hollande, où il y avait Dominique de Villepin, il y avait Michel Sapin. Ils étaient plusieurs.
C'est déjà très très bien.
Voilà.
Et puis là, Ségolène, bien sûr.
Voilà. Et donc là, c'est le cas. Alors, si on regarde par exemple vous, vos photos de classe, Jérôme Commandeur.
Que sont. Guy Georges, déjà, un ami.
Ah bah oui, il y a Guy Georges, il y a Émile Louis. Il y a Michel Fourniret, Mimi. Ça, on en a fait des belles.
C'est vous qui avez le moins réussi finalement.
Oui. Alors, sinon, sur ce sujet, c'est la démonstration éclatante du système de cooptation dans la fabrique de l'élite administrative. Ça vous fascine cet effet?
Oui, bah, c'est plutôt l'ENA, plus que cette promotion en question. C'est plutôt le principe de l'ENA. Oui, effectivement, c'est impressionnant à voir que. Voilà, ils sont tous à de très hauts postes et le premier d'entre eux voilà, en tête. Mais...
Alors, ici, il y a un concentré quand même. C'est une promo assez. Où il y a plus de concentration, paraît-il.
Oui, c'est vrai. Mais très honnêtement, j'ai l'impression que ça ne change pas vraiment, quoi. Mmh. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu ce côté marketing un peu de l'ancien monde. Enfin, l'ancien monde, nouveau monde. Puis finalement, on se retrouve. Le nouveau monde a été un peu pioché dans les usages de l'ancien monde, quoi.
Ils nous font la même, en fait.
Mais dans vos métiers, il y a aussi des familles. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a travaillé ou été au cours de théâtre avec un tel ou un tel, on n'est pas contre l'idée de rappeler un ami pour bosser.
Mais oui, je sais qu'il y a des associations étonnantes. Je crois que Karine Viard, Valérie Le Mercier, Franck Dubosc viennent d'un même cours de théâtre à Rouen. Oui, il y a des comme ça, oui, effectivement.
Moi, après, ils ne sont pas amenés à diriger des boîtes et prendre des décisions pour l'ensemble.
Parler du phénomène.
Oui. Ah oui.
Est-ce que vous demandez parfois qu'est-ce qui passe dans la tête de ces jeunes gens qui ont quoi à l'époque 24-25 ans et puis qui s'engagent à l'ENA? Nous, on se demande souvent, on se dit, mais si.
Moi, je pense qu'elle a des problèmes sexuels à la base.
Faut pas exclure.
Oui, difficulté à aller avec l'autre, et puis on sent que la psychanalyse a pas tout réglé, et puis on se dit, bah, ça se l'éna.
Vous qui aimez bien dans vos chroniques, parce qu'on l'a pas dit, mais on va le dire une fois, vous travaillez évidemment chez les Bleus pour Europe 1, vous aimez bien toujours choisir le petit personnage aux alentours. C'est-à-dire que.
Oui, beaucoup. Oui.
Ici, ça pourrait être.
Un camarade de classe.
Ou la secrétaire. Oui.
Oui, j'aime beaucoup ça, parce que je trouve que. Voilà, on sait tout. Enfin, on arrive tous à avoir par le petit bout de la serrure, enfin, donc c'est toujours drôle d'avoir la secrétaire de Hollande ou je sais pas, il y a l'hôtesse d'accueil des Républicains, enfin, il y en a plein comme ça. C'est toujours le petit personnage qui est à côté, puis qui finalement en sait autant, voire plus que ceux qui sont sur la photo.
Une réaction autour de cette table à ce sujet, la fameuse promo Sangor, Isabelle Sorrente.
Oui, ça m'impressionne, en fait.
C'est vrai.
Un peu de jalousie, peut-être, Isabelle.
Ça m'impressionne, oui, quand je vois, il y a quand même des gens qui dirigent des banques, je suis très impressionnée. Mmh. Après, je pensais la même chose que vous, Alex. Je me disais, alors, est-ce que nous, on fait pas pareil? Non, genre, après le coup, Florent. Mais non.
Ça m'est jamais arrivé, Isabelle.
Mais vous sortez d'une grande école, Isabelle Sorrente.
Oui, mais moi, je suis vraiment défroquée. Moi, j'ai fait Polytechnique. Mais je me suis absolument pas servie de mon réseau. Ouais. Donc, j'étais un poète égaré.
T'étais en train de regretter, hein, en lisant l'article.
Et là, je me dis, j'ai tout raté, quoi.
Elle a fini à France Inter, quelle loose.
Ils ne vont plus jamais vous appeler.
J'étais trop dans la lune.
Ah, mais justement, montrez-nous vos qualités de poétesse, de Polytechnique.
Alors moi, lorsque j'ai découvert l'existence de Gaston Lagaffe, hein, revenons au vrai sujet.
Oui, voilà, sujet de fond.
J'ignorais tout du monde du travail. J'étais une enfant comme les autres, une enfant qui avait grandi entre deux marées noires. Une enfant qui pensait que le mot crise désignait quelque chose comme une crise de foi, quelque chose de violent mais qui passe vite. Et puis j'ai vieilli et j'ai compris que les choses violentes pouvaient parfois durer longtemps. Et Gaston, lui, comme tous les personnages éternels, est resté le même. Il a gardé son pull vert, hein, dans le film aussi, ses baskets et sa manie de fabriquer des choses qui ne tiennent pas debout, de faire échouer les négos, de gâcher les contrats et son besoin de sommeil. La maladresse et le besoin de sommeil, c'est quelque chose de si rare aujourd'hui. Le besoin de sommeil, c'est quelque chose qu'on ose si peu avouer que ça me donnerait presque envie de pleurer, tiens, en fait. Comme ce vieux-là dans Soleil Vert, Charline, qui chiale en regardant sur un écran les tomates et les fleurs qui n'existent plus sur Terre. Oui, le besoin de sommeil, c'est devenu une valeur rare, comme la paresse et la maladresse. Si le sommeil, la paresse et la maladresse étaient cotés en bourse, leur cours dépasserait celui des hydrocarbures, dont nous savons pourtant tous autour de cette table que les réserves seront asséchées d'ici 20 ans. Oui, d'ici 20 ans, je le rappelle à nos auditeurs, plus d'essence dans la voiture. Mais il est bien possible que ne plus assumer son besoin de sommeil ni son besoin de paresse, ça veuille dire plus d'essence dans la vie, plus d'essence tout court. Gaston Lagaffe est un poète du négatif, un résistant souriant. On pourrait dire que ses échecs, ses maladresses sont une forme de résistance non violente opposée à un monde utilitariste. Mais Gaston ne vient pas de nulle part. En littérature, il a au moins deux nobles ancêtres. J'ai bossé, Alex, pour la chronique. Tous deux nés à la fin du 19e siècle. Le premier, c'est Oblomov de Ivan Gontcharov et le second, c'est Bartleby de Herman Melville. Les deux livres, c'est drôle, ont été publiés à 6 ans d'intervalle, l'un en 1859 et l'autre en 1856, comme si ces deux grands écrivains, le russe et l'américain, avaient pressenti que l'accélération et l'utilitarisme pouvaient tuer des gens. Oblomov met des heures à se lever le matin, il souffre d'une impossibilité chronique de passer à l'action qui finira mal. Bartleby oppose à tout ce que son patron lui demande de faire un refus poli, j'adore la phrase. I would prefer not to. J'aimerais mieux pas. Il finira par se laisser mourir en prison. Si je rencontrais aujourd'hui Gaston, Oblomov et Bartleby, Hippolyte, et qu'ils me demandaient comment vont les choses, je leur dirais, voilà, j'ai contracté une dette de sommeil depuis le début des années 2000 et j'ignore encore quand je pourrai la rembourser. Je vis dans un monde où les mots du dehors cachent les mots du dedans. Dehors, il y a des mots, en général des mots anglais, censés nous donner des coups de fouet. Des mots comme positive thinking, empowerment, success story, startup. Il y a aussi des étoiles. Pas les étoiles de la voûte céleste, Charline, non, les 5 étoiles que donnent les clients pour noter leur satisfaction. Et puis dedans, il y a des gens qui ont peur de ne pas récolter assez d'étoiles, peur de perdre leur travail, des gens forcés de considérer leurs collègues comme des rivaux pour ne pas se retrouver dehors, à croire que la bienveillance aussi finira par être interdite aux pauvres. Et puis, il y a des gens comme moi qui s'intéressent à des questions qui ne rapportent rien. Quel est le sens de la vie? C'est la seule question qui m'intéresse. Je ne peux pas vivre sans elle et je crains qu'elle soit mal payée. Gaston Oblomov, Bartleby, priez pour nous. L'idée m'est venue en écrivant Céline de lancer un appel général à la révolte contre les 5 étoiles et les enquêtes de satisfaction. Mettez 5 étoiles systématiquement, que le service vous ait plu ou non. Abandonnez la responsabilité de l'évaluation. Abandonnez ce pouvoir qui vous enchaîne. 5 étoiles, très satisfait. Optez pour l'évaluation maximale systématique. Et en guise de commentaire à toute enquête de satisfaction, ajoutez la fameuse phrase de Bartleby, I would prefer not to. J'aimerais mieux pas, mais je mets 5 étoiles pour faire dérailler la machine. Parce que certains jeux ne méritent pas qu'on y joue. Nous sommes infinis, nous sommes poètes, nous sommes libres. Oh, Isabelle Sorrente,
wow, technique, merci. Les gars. Ouais,
Jérôme Commandeur, vous donnez combien d'étoiles à cette chronique?
5.
Il y avait un piège.
Ah, je vous rappelle qu'une seule étoile, ça n'a pas toujours été bien vécu. Hein.
C'est... Oh, bien sûr, le point Godwin.
Allez, c'est pas musique, voilà. La musique.
Bingo.
Jardin d'Étienne Dao, pour poursuivre sur France Inter par Jupiter en compagnie de Jérôme Commandeur, que vous pouvez voir dans Gaston Lagaffe, le film de Pierre-François Martin Laval qui est en salle demain.
Qui est plus connu sous le nom de PEF, je le dis.
Oui, 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 bien sûr.
C'est vrai.
C'est Pierre-François juste. Martin Laval, un auteur des années 40. Mais non. C'est PEF, quoi. C'est PEF.
C'est vrai qu'il y a un petit côté collabo.
Oui, c'est Laval.
C'est ça, c'est le côté
Laval. Ça lui fera plaisir. Vous jouez Monsieur de Besmaquer.
Alison Wheeler est super.
Oui, c'est vrai. Il y a Théo Fernandez. Il y a PEF lui-même, Arnaud Ducret, Alison Wheeler.
Charlotte Gabris aussi, qui est formidable.
Oui, Franck Bruno et Sylvie Laguna qui vous suit. Suit votre personnage de Monsieur de Besmaquer.
Est-ce que
me laisser signaler à la sortie chez Dupuis de Gaston le gaffeur qui avait du nez. C'est un hors-série où plein de gens parlent de leur rapport à Gaston. José Beauvais, Yann Arthus Bertrand, Philippe Etchebest, ils parlent de Gaston fan de nature et tout ça.
Pierre Gattaz,
plein de gens ont fait des nouvelles planches et on m'a demandé de faire une petite planche et j'ai fait faire de la radio à Gaston. Alors c'est rigolo, dessiné par Libon.
C'était voilà. La page autopromo d'Alex Vizorek.
Franchement, j'ai pas gagné un franc, je vous le dis. C'est autopromo cadeau.
Parce que les francs n'existent plus, donc on va jouer aussi, je pense.
Rappelez-nous, donc pour voir Gaston faire de la radio et puis tous ses hommages.
C'est chez Dupuis, c'est un hors série Gaston.
Vous savez que dans les émissions bien, on offre quand même les livres dont on parle à l'invité.
Voilà. Bam, c'est fait.
Il est malin.
Il gratte.
Jérôme Commandeur, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Ça y est, les amis, on y est, l'heure est grave, les bolcheviks ont pris le contrôle de la France, les trains sont bloqués par des vilains rouges, le couteau à merguez entre les dents, la France est paralysée, la CGT lui a savaté la moelle épinière, Philippe Martinez, qu'on prenait pour Gérard Jugnot, s'est avéré être un redoutable Bruce Lee à moustache. Le JDD se pisse dessus, s'essuie avec son journal et le vend en kiosque. L'agriculture est de retour, comme le disait le député Gabriel Attal sur cette antenne hier matin. Gabi qui s'y connaît bien sûr en politique puisqu'il a été délégué de classe l'année dernière en CE2 et qui, quand il parle de travail, n'est pas influencé hein, puisqu'il a jamais rien branlé de sa vie, donc il est totalement objectif. Alors je suis allé Gare de Lyon ce matin recueillir l'avis des voyageurs et des voyageuses bloqués par cette grève infamante. Comment il la sent, la grève, cet usager ?
Il la ressent très mal, c'est vraiment... C'est bloquer le pays, c'est ralentir l'économie alors que le pays repart, je trouve ça déplorable. Et on a le sentiment d'être pris en otage.
Ça y est. On va pas se mentir, c'est le hit. Hein, c'est le hit, la prise d'otage, c'est le grand classique. Si vous faites un karaoké spécial grève, révisez ça. Hein, c'est le Alexandrie Alexandra de la grève. On me l'a dit quasi à chaque fois, même chez cet autre usager, à qui j'ai demandé de préciser quand même.
C'est l'expression consacrée.
Est-ce que le mot est pas trop fort quand même, prise d'otage ?
Non. Parce que c'est toujours comme ça.
Parce que prise d'otage, normalement, il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu, quoi.
C'est vrai.
Est-ce que votre vie est en jeu ?
Non. Oh. Mais ça y ressemble.
Ah oui, ça y ressemble vachement. Alors, c'est pas une Kalachnikov, c'est un sandwich SNCF. Mais je suis pas certain que ça fasse moins de morts. Hein. Faudra vérifier les chiffres des intoxications alimentaires. Moi, je serais Daesh, je ferais des prises d'otages à la tomate mozzarella. Hein. Ça serait quand même plus rentable. Mais ils sont pas très disruptifs, comme on dit. Alors, j'ai poursuivi avec ce même monsieur sur la question des droits.
Les nouveaux n'auront pas les avantages des anciens, mais c'est vrai pour la SNCF, je suppose c'est vrai pour les autres. Hein.
Voilà. Alors ça veut dire qu'il faudrait que tout le monde abandonne ses droits ?
Il n'y a pas le choix, ils n'ont pas le choix. Donc quoi qu'ils fassent, ils vont perdre.
Voilà, on retrouve tout l'esprit français, la gagne, la win attitude. Ah, on a l'impression que c'est un français à Roland-Garros. Hein, on va pas risquer de gagner parce que ça pourrait déstabiliser un pays qui n'a pas l'habitude. Alors ça, c'était pour le côté, donc on a eu prise d'otage et perdu d'avance, hein, c'est deux classiques. Autre argument qui fait partie, je dirais, du grand bingo de la grève SNCF, c'est la fameuse quoi ?
La prime charbon pour les conducteurs de locomotives. Aujourd'hui, avec ces magnifiques machines... Est-ce que c'est encore d'actualité ou pas ? Est-ce que c'est toujours louable ? Après...
Non, la prime charbon, elle n'existe plus.
Non, mais... Ouais,
depuis 1974.
Ah, vous avez révisé votre leçon, pas moi.
Ouais, disons qu'on n'a pas révisé les mêmes leçons. Hein. C'est vrai que quand tu as fait 20 ans à l'école Jean-Pierre Pernaut, ça laisse des traces. Dans ta tête, il y a encore des trains à vapeur et des fabricants de cendriers en rotin. Surtout quand tu as eu la mention Laurent Delahousse en déontologie. Alors, ce qui se joue, c'est pas vraiment ça aujourd'hui. Hein. Ce qui se joue, c'est la défense du service public. Et j'ai quand même trouvé ce matin un usager qui défend le service public, hein, n'est-ce pas, monsieur ?
Oui, mais bon, ça serait privatisé, ça ne me dérangerait pas plus, parce que à mon avis, en tant que voyageur, ça ne changerait rien.
Oui, donc vous y tenez pas plus que ça ?
Pas plus que ça, j'irais pas me battre contre une privatisation, même si je...
Oui, donc vous y tenez même pas du tout, alors ?
Bon, je sais pas que j'y tiens pas, mais bon, pour moi, ça changera rien.
Bon, oui, bon, c'est pas la réincarnation de Georges Marchais, hein, que j'ai rencontré non plus, on est plutôt sur un Éric Brunet un peu complexé, quoi. Un Christophe Barbier, on va dire, on est sur un Barbier. Donc pour lui, ça changera rien. Alors, bah, demandons à un Britannique, hein, que j'ai croisé ce matin également, un fou de privatisation.
Moi, je suis assez fan de privatisation en général, mais la privatisation des chemins de fer en Angleterre a été un désastre absolu. Donc, de ce côté-là, je suis entièrement du côté des syndicats.
Oh putain, même les Britanniques deviennent bolchos, on est très mal. Moi, je suis désolé, je sais pas vous, mais ça me fait trop flipper cette histoire. Alors, j'anticipe, comme on va bientôt avoir des chars russes sur les voies sur berge, des chapkas obligatoires, de la vodka au petit déjeuner, et je sais qu'Hippolyte a un peu pris d'avance là-dessus, je vais au-devant de ces affreux rouges, et pour me mettre bien avec eux, je reverse l'argent de cette chronique à la caisse de grève des cheminots.
Ouais.
Courage les amis, Nazdrovia.
Merci Guillaume Meurice. Nous sommes avec Jérôme Commandeur jusqu'à 18h sur France Inter. Et sachez que le bac de français va bientôt être amputé de l'une de ses épreuves, l'écriture d'invention. Le fameux « écrivez une description à la manière de Zola » ou « rédigez l'éloge funèbre d'un écrivain ». Le ministre de l'Éducation veut mettre fin à cette épreuve qui ne répond pas à l'exigence d'argumentation nécessaire pour se préparer aux études supérieures. Ah, attendez, parce que j'oubliais un exemple fameux d'énoncé pour l'écriture d'invention. Imaginez une description de Paris la nuit à la manière d'une chronique d'Hippolyte Girardot.
Quand les monuments s'éteignent, il y a des gens qui montent sur les toits et qui font la fête. Ils attendent tapis sous les vasistas dans les mansardes. Et quand l'obscurité retombe sur Paris, quand le Panthéon, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel s'éteignent, ils sortent peu à peu et envahissent en silence les toits et les balcons. Ils montent aux échelles, se pendent aux paratonnerres et aux antennes. Ils font des glissades le long des pentes d'ardoise. Ils courent sur les corniches. Ils enjambent les parapets et sautent au-dessus des ruelles. Derrière les cheminées, ils s'embrassent. Et quand il fait bon, ils font l'amour sur les terrasses.
Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais de la poésie.
Nous non plus. Hippolyte, dans Un monde sans pitié, bien sûr, le film d'Éric Rochant. Et celle qui vous donne la réplique, c'est...
Mireille Perrier.
Oui, Mireille Perrier. C'est une pleine page dans le Figaro qui nous explique que les anglo-saxons encouragent plutôt cette pratique de l'invention dans l'écriture, persuadés que de devenir écrivain, ça peut s'apprendre. En France, on a la dissertation, le plan, plusieurs parties, etc. Et vous, en France, plutôt les anglo-saxons, eux, laissaient la figure libre. Jérôme Commandeur, est-ce que l'école vous a appris l'écriture? La base de votre métier, ça reste l'écriture, vous êtes très attaché à ça. C'est l'école qui vous l'a appris dans le sens où vous la pratiquez aujourd'hui?
Ah, c'est drôle que vous me demandiez ça, parce que moi j'ai fait des études de lettres et puis je suis allé jusqu'en maîtrise de lettres, mais je ne l'ai pas validé. Mm-hmm. Et je me souviens de certains profs, pas tous, mais que je trouvais quand même très sectaires, et c'est vrai, je m'attirais un peu les foudres, mais je me souviens d'un type qui avait dit à un élève, vous êtes ignorant, puis je me suis dit, mais non, on peut pas dire ça à un élève. Bon, après, il peut y avoir des excès de colère et tout, mais je trouvais que c'était très dogmatique. Voilà. Et
vous sentiez dans un carcan.
Oui, moi, j'en ai pas particulièrement souffert, j'ai vraiment aimé mes études, et j'ai eu des profs formidables, mais je trouvais, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai, moi, quand je vais aux États-Unis ou en Angleterre, à chaque fois, je demande aux gamins de mes copains, et alors là, on a fait de la peinture sur les murs pendant 3 heures. C'est peut-être les clichés, c'est un peu l'image qu'on a de l'école aux États-Unis ou en Angleterre, mais j'ai l'impression effectivement, oui, qu'on essaie de développer un peu plus le l'être, quoi, l'individu, plutôt que l'académisme comme ça de l'enseignement.
Alors ici, Jean-Michel Blanquer dit ça paraît pas très probant. Il y a pas mal de enseignants qui témoignent dans Le Figaro en disant il y a beaucoup d'anachronismes. Il faut vraiment maîtriser, par exemple, Zola pour pouvoir faire une description à la Zola, etc. Et donc ils veulent le remplacer par une autre dissertation. Jérôme Commandeur, si un jeune vient vous trouver et qu'il a envie d'écrire avec une aptitude à la fantaisie, comment est-ce qu'on peut mettre en avant la créativité? Quel exercice vous lui proposeriez? Si vous étiez prof comme ça, vous avez une classe, les jeunes, ils vous écoutent, ils se disent, putain, Jérôme Commandeur, il me fait trop rire, il écrit bien.
Et... Il y en a un, des jeunes qui vous
écoutent. Merci. On a eu au téléphone.
Oui, c'est vrai. Et vous, salut.
C'est n'importe
vous
quoi.
L'avez puisé en vous, ça, vous êtes l'écriture comique.
Ouais, ça, mais
vous rappelez comment elle vous est venue?
Non, j'en sais rien, mais en plus je trouve que c'est très abstrait de parler de ça. Je pourrais peut-être plus répondre à la limite pour un jeune, parce que ça m'arrive souvent à la sortie des salles. Il y a des jeunes mecs ou filles de cours de théâtre, et ils me disent, j'aimerais bien être humoriste. Mm-hmm. Donc ça, pour jouer, pour monter sur scène, faire du one man show. Et en général, quand je leur demande, mais est-ce que tu joues déjà, ils me disent non. Et je dis, mais tu peux pas avoir envie de faire du piano si tu fais pas de piano. Enfin, il y a quelque chose de il faut au moins, même si c'est pas joli, même si c'est un peu comme
le spectacle d'Alex, quoi. Hein, si on veut prendre un exemple concret.
Oui, voilà, d'un jeune
qui n'en veut,
voilà, que j'ai vu, à la sortie de ma pièce, et qui m'a demandé.
Non mais
pour être sérieux deux secondes, c'est vrai que ce que je leur conseillerais, c'est déjà d'écrire. Ça paraît bête, mais d'écrire et de jouer, même de jouer dans une petite. Il y a plein de petites salles qui font 25 places avec des petits sièges, et puis qui sont en bas de chez soi, et de au moins loin d'écrire et d'être dans la, comment dire, dans la pratique de la chose et pas dans le désir. Parce que si on est dans le désir, on fantasme des choses dans sa tête. Alors que, bah, comme vous, comme moi, quand on écrit comme ça tous les jours, bah, et un jour c'est moins bon, un jour c'est mieux, un jour, des fois c'est que mauvais, comme Alex. Enfin voilà.
Il y a
que
des je suis attelée.
Pour écrire, il y a la méthode Thomas Sisley qui marche bien, mais il faut parler anglais. Essentiellement de la traduction.
Et pour conclure ce sujet, il y a le président de l'Association de défense des langues anciennes qui explique, c'est son argument pour dire que cette écriture d'invention n'a plus vraiment lieu. Dans le cadre d'un sujet consistant à rédiger l'éloge funèbre d'un écrivain, j'ai eu droit à l'éloge d'un youtubeur. Donc évidemment, si vous tirez une balle dans le pied...
Si c'est bien écrit, c'est créatif.
Exactement.
Démonstration, tout de suite, si vous voulez, avec Hippolyte Girardot, justement, qui nous a lancé ce sujet.
Ah, élevons-nous un peu.
Non, mais... en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais en fait, voilà, j'ai une idée comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, ben, justement, à la manière de, là, on dit fait du Zola, etc. Bon, c'est effectivement, c'est compliqué. Mais je me suis dit, je vais faire une chronique à la manière de quelqu'un que... peut-être vous connaissez.
Ah oui. Ah oui, oui, oui.
Sur les épaules d'Hippolyte. Sur les épaules du glandeur. Se tenir dans la poche du glandeur. Et voir tout près tout ce qui est dans la poche. Hier, à 22h16, heure de Paris, s'est finalement abîmée la station spatiale Tiangong 1, falaise céleste en mandarin au-dessus du Pacifique. Devenu incontrôlable depuis mars 2016, il était absolument impossible de prévoir à quel endroit du globe elle allait tomber. Dans une étude publiée en avril 2017, dans le cadre du colloque de l'improbable toujours plus probable, Time Stackles and Stackles, le professeur Vladimir Matine expliquait que la prévisibilité de la disparition annoncée d'une construction humaine aussi sophistiquée soit-elle, est hautement imprévisible. Étude reprise en partie par le groupe de recherche de la rue Farfouille, le GRRFF, dans sa célèbre communication sur les grands cimetières terriens, publiée en janvier 2018 à l'Université des Impossibles, peu ou pas possible. Malgré cela, il apparaît que la probabilité que Tiangong 1, palais céleste, en mandarin, se désintègre dans cette zone du Pacifique Sud était de 9 sur 10. Pourquoi ? Quel est ce mystère que la poche du glandeur va encore une fois éclairer de sa lumière ?
Oh, c'est beau !
Depuis 1971, une zone maritime aussi vaste que l'ex-URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, accueille les engins spatiaux de retour de mission. Cet endroit, perdu au milieu du Pacifique, est appelé pôle d'inaccessibilité et se situe à 2688 km de la première Terre émergée, l'île d'Ussi, un atoll inhabité. Ce cimetière a déjà accueilli 250 à 300 engins spatiaux en fin de vie. Le plus célèbre restant à ce jour, la station spatiale soviétique Mir de 120 tonnes qui gît, comme les autres, à 4504 mètres de profondeur. Dernière habitation de ces fantastiques machines témoignant du génie humain, ce lieu se nomme la zone Nemo. En hommage, évidemment, au fameux capitaine inventé par Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers. Cet endroit inhospitalier, à l'écart des courants sous-marins et par conséquent peu ou pas habité de créatures marines, est pourtant le théâtre d'un mystère encore non résolu. En mars 1997, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, en anglais le NOAA, a détecté un son d'une origine inconnue. On l'a nommé le bloop.
Il y a du budget sonore aujourd'hui.
Toutes sortes d'hypothèses ont été émises. Mais l'étude du professeur Edmund Kaiser Yu, Critical Critics of the Bloop, Boston Faculty of Bloops, 2002, fait désormais autorité. Il dit « S'il est physiquement impossible d'imaginer une créature assez imposante pour émettre ce bloop, il faudrait qu'elle fasse 10 fois la taille de la plus grosse baleine jamais observée. L'origine donc de ce son est inexplicable. Les hypothèses
en rapport avec la créature de Cthulhu, imaginée par l'auteur de science-fiction H.P. Lovecraft, dont le tombeau se situerait dans la zone des mots, avant même que cette zone fût désignée comme la déchetterie spatiale, sont aussi fantaisistes qu'infondés. Le mystère de ce son ultra-puissant, entendu à 5000 km de son émission, reste entier. Aujourd'hui, contredisant humblement le professeur Kaiser Yu, sur les épaules du glandeur, peut enfin révéler la vérité.
Après le travail...
Grâce au travail exceptionnel du professeur Anne-Sophie Ladonne, nous avons donc réussi à identifier l'origine de ce bloop.
Parce que c'est notre projet.
Ah, merci. Merci, Pauline Girardot.
Ça sera cru à la Villette.
Parodie de cette émission donc, sur les épaules de Darwin, bon, Jean-Claude Ameisen, le samedi à 11h. Et on a de la chance parce qu'il me semble que Anne-Sophie Ladonne a déjà contribué à réaliser cette émission. Et donc, d'où sa maestria pour lancer les sons au bon moment. Merci, et cet habillage sonore, merci avec Kevin Pelot à la technique. Jérôme Commandeur avec nous. Et ce
Cambeur, vous pouvez dire, c'est joli aussi.
C'est beau.
Alors, oui, c'est vrai, Jérôme Cord. Oh, c'est beau. Oh. Parce qu'en plus, son spectacle s'appelle Tout en douceur. Alors, sans vouloir vous commandeur, je voudrais faire ce troisième sujet avec vous. Les Beaux-Arts de Nantes louent des tableaux. Pour 60 euros, vous pouvez accrocher une œuvre pendant 3 mois au mur du salon. On loue une œuvre comme on emprunte un livre. L'Artothèque propose 500 références. Comme ça, on peut changer d'avis, on peut varier dans un domaine où règne en maître la subjectivité.
Hé hey Bernard, c'est quoi cette horreur?
Ah oui, là il y a un petit problème. J'ai l'impression que vous n'avez pas dû lire le règlement. Je vous explique, nous sommes une quinzaine de copropriétaires à se partager cet appartement, vous voyez. La décoration en général est supposée plaire à tout le monde. Par contre, ici, là, ce petit crochet, c'est l'emplacement de la touche personnelle. Et personnelle, vous comprenez? Alors, je vois pas pourquoi je devrais supporter cette croûte.
C'est bien sûr les bronzés font du ski. Et nous avons trouvé ce sujet auprès de France Bleu Loire-Océan, la filiale régionale de la honte de la République. Est-ce que vous avez déjà eu envie de décrocher un tableau pour le mettre dans votre salon, Jérôme Commandeur?
Quelque part?
Ouais, n'importe
où.
Ouais.
Oui, j'ai eu envie de ça dans le siège d'une boîte récemment. Il y a un très bel ascenseur, je sais pas, rouge, c'est ouais. Aucun sens, et je me suis dit, je l'emmènerais bien, mais il est sous le nez du vigile, donc ça n'a aucun sens.
Et c'est pas cher, 60 euros, je me dis.
Ouais, pour 3 mois.
Bah oui, ah,
c'est juste le prix de quelqu'un qui vient l'accrocher chez vous et le décrocher 3 mois après. C'est le prix
on
de la pose.
On ne pas avoir que des...
Oui,
des grands maîtres
flamands. Ah oui, non, bien sûr. Bah, non, pas des grands maîtres flamands. Non. Après, si c'est Claude Guéant, il peut vous faire un prix, ça, je ne sais pas. L'idée que tout se loue, même une œuvre d'art, tiens, ça vous interpelle? Vous dites la société évolue quand même.
Ah oui, moi, ça me. Oui, je trouve ça même très beau, très, très joli, quoi, ouais. de d'amener les gens à ça. Oui, je sais pas. Après, c'est ce que dit Alex. Il faut voir quel est le catalogue, parce que si effectivement, si vous rentrez plein d'espoir et puis la fille vous montre un catalogue avec que des croûtes.
Non, elles sont dit. Alors, c'est disponible sur Internet où il y a 500 références et vous pouvez choisir. Et c'est bien parce que vous pouvez changer. C'est aussi la société d'aujourd'hui. Hop, je change. Mais bien sûr, évidemment. Guillaume et moi, faut faire une confidence. Un jour, au salon du livre, on a vu un très beau portrait de Pierre Gattaz.
C'est vrai, c'était
qu'on
nous.
Qu'on a décroché. On s'excuse. Voilà. Et après, le vigile l'a vu et ouais. On n'a pas pu le ramener. Mais on aurait ça, c'était notre fantasme.
C'était comment dit dans le jargon, la PLV, c'était du polystyrène.
Une grande photo.
Ah, une photo,
d'accord. Une belle photo, voilà,
ouais. Jérôme Commandeur, nous avons une proposition indécente à vous faire.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qui découvre. Oui. Et aujourd'hui, c'était la journée un peu du covoiturage. Et Guillaume Meurice avait envie de covoiturer. Je vous ai choisi 3 personnages que vous maîtrisez, qui ont un petit peu pris Guillaume pour l'aider. Alors, moi, vous me faites tellement rire. Écrire pour Jérôme Commandeur, ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça vous plaira. Oui. On y va.
Ah, merci de vous arrêter. Ah, mais vous seriez pas Dominique Besnéard?
Mais c'est qui connaît ces classiques.
C'est quoi?
C'est classique. Ah. Enfin, tu m'as reconnu, quoi. Tu dois être cinéphile.
Ah, bah, c'est vrai, j'ai 2 passions, le cinéma et le féminisme.
Ah, moi aussi, je suis féministe. Hein.
Ah, vous êtes sûr de ça?
Ah, bah, évidemment, mon petit. J'ai même suivi des cours de féminisme à Catherine Deneuve.
Ah, oui, elle donne des cours, oui, d'accord.
Ouais, elle a été formée par Brigitte Bardot, qui elle-même a été formée par Harvey Weinstein.
Ah, bah, c'est le wouzou du féminisme, là.
Comment tu dis?
Le wouzou.
Moi, ça, je vais pas arriver à le sortir.
Non, mais les vraies féministes, vous en connaissez?
Bah oui, j'en connais. Je suis devenue la tante Caroline de H.
Mais non.
Si, elle va faire du cinéma. Je l'ai placée sur le remake de Bambi.
Ah, d'accord. Et elle fait Bambi?
Non, la maman de Bambi, puis c'est moi qui vais faire le chasseur.
Ah, non, bah, alors, ouais. Mais c'est gentil, je vais changer de covoiturage, hein. Oh, sale. Oh, madame de Fontenay.
Mais je vous en prie, mon brave, montez. Je suis la sœur Emmanuelle des autostoppeurs, moi. Non,
merci, vraiment. Et qu'est-ce que vous devenez, là, ces jours-ci?
Bah, toujours dans l'élevage, hein, mon ami.
Ah, je savais pas que vous étiez dans l'agriculture.
Non, l'élevage des miches.
Ah, d'accord, oui.
Bah, attention, c'est pas de la miche d'élevage qui pose à poil dans l'entrevue, hein, qui fout de la danette sur son kiki. Hein, c'est de la miche label rouge, élevée en plein air et nourrie au grain.
Vous savez, moi, je suis un fou de miche, moi. Vous pourriez pas me mettre en contact?
Bah, bien sûr. Attends, Josiane Pouillot, elle est veuve, Miss France 43, ça vous intéresse?
43, vous dites? Ouais,
ouais. Bah oui, elle est blonde, vous pensez, c'est les Allemands qui l'ont élue, ils aimaient bien. Ah,
elle ne doit plus être très blonde aujourd'hui.
Ah ben non, après la libération, ça n'a jamais repoussé. On dirait un œuf à Pâques, les enfants les courent derrière. Hein.
Vous êtes peut-être une miss plus récente, non? Peut-être.
Oui, il y a Marguerite Chotard, Miss France 65. Elle est un peu déprimée, sort de sa troisième ménopause.
Non, mais je ne veux pas les déranger, en fait, je vais descendre ici, merci beaucoup. Hein. Oh, monsieur Sébastien, je vous adore, je regarde tous les plus grands cabarets du monde.
Ah putain, tu m'étonnes, c'est que du bonheur.
La grève?
Non, justement, je prépare un grand cabaret spécial grève.
Mais non.
Eh ouais, j'ai des contorsionnistes kazakhs, les frères Calico, qui jonglent avec des bidons d'essence et ils se mettent à trois dans un pneu pendant que leur soeur... Je découvre en même temps, c'est pour ça. Pendant que leur soeur, elle avale de la viande hachée et des piments. Il a fini par chier des merguez. On l'a vu en répète, on était mort de rire.
C'est gentil, Patrick, je vais continuer à pied.
Merci Jérôme Commandeur, c'était merveilleux. Jérôme Commandeur qu'on peut voir à Monsieur de Mesmaquer, oui, dans le Gaston Lagaffe de PEF qui sort en salle demain avec Théo Fernandez, Alison Wheeler ou
Arnaud Ducré. Il y a Sylvie Grandler aussi. Miss France 22. Elle sent le gars, Sylvie Grandler.
Merci les amis, voici le mot de la fin.
Ça fait 6 mois qu'elle est plus incontinente.
De la SNCF. Elle
est contente comme tout.
Ils sont jamais contents. Je suis contre la grève parce que c'est quand même assez souvent. Hein.